Ce soir, m'adresser à vous en vous parlant tout simplement de la foi. Vous aimez entendre parler de la foi? Hein? C'est mieux que d'entendre parler du jugement. Hein? Ah, que tu es bon, Seigneur. Alors, j'aimerais vous parler de la foi, mais de personnes, finalement, qui sont comme des témoins pour nous, ou des témoignages de leur foi. Des personnes dont Jésus a dit, c'est bien. Amen. Vous aimez quand on parle comme ça? Allez, on va ouvrir l'évangile de Matthieu, chapitre 9, lire simplement le verset 28, et entrer donc comme cela dans le vif du sujet. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, comme je le disais, nous allons ici considérer la foi de ce qu'elle a de plus immédiat et de plus simple. Quelquefois, on a, nous, tendance à compliquer les choses. C'est pas vrai? Mais c'est simple, hein? La foi comme un enfant. Si vous avez la foi comme un enfant, vous pouvez déplacer des montagnes. Oh, formidable, hein? Alors, pour cela, je vais parler du principe de la foi. Je prends Hébreux 11, verset 1er, c'est un verset que vous connaissez, que nous connaissons bien, mais je le prends dans la parole vivante, donnant un éclairage tout à fait autre. Alors, qu'est-ce que la foi? Eh bien, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Alors, et là, je vais amener des précisions. Il faut préciser que la foi, d'abord, elle n'est pas aveugle. D'accord? Elle va s'appuyer sur la réalité des choses que Dieu a révélées. Est-ce qu'il veut dire simplement, eh bien, ses promesses? Bien sûr, quelquefois, elles sont assorties de conditions. Mais c'est important de les connaître. Elle est, je dirais, plus que l'espoir. Elle est fondée sur la conviction que ce que Dieu dit, ce que Dieu a révélé, c'est comme une promesse. Amen. Il dit, je te le donne. Mais il faut le saisir. Et c'est là que la foi va entrer en action. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 14, nous dit que nous avons auprès de lui, auprès donc de Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui, si c'est selon sa volonté que je prie, que je demande, je suis entendu. Le Seigneur est là, il écoute. Et il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors dans son expression la plus simple, la foi, bien sûr, c'est une attitude de confiance en Dieu, pour la bonne raison et simple raison, c'est que Dieu est digne de confiance. Quelquefois, on a des personnes à qui on a, allez, on a donné de la confiance. Et quelle malheureuse surprise après de s'apercevoir que ces personnes-là, finalement, n'en étaient pas dignes. Parce qu'il y a eu un intérêt tout autre, ou que sais-je, des circonstances particulières qui ont fait que, justement, eh bien, elles ont failli dans le domaine de la confiance. Amen. Alors, une des exhortations, pardon, qui est souvent considérée comme l'une des plus encourageantes pour la foi, c'est celle adressée à Jaïrus. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Jaïrus? Marc chapitre 5, verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors on va évoquer des personnes que Jésus, justement, a félicitées à cause de leur foi. Je rappelle au passage, eh bien, que c'est le seul moyen par lequel les hommes peuvent être agréables à Dieu. Il faut qu'il croie en Dieu, qu'il croie qu'il existe, qu'il est vivant. Je prends Hébreux, encore chapitre 11, mais le verset 6, et dans la Bible à la Colombe cette fois-ci. Or, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Voyez, agréable ou plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Si je le cherche de tout mon cœur, sans arrière-pensée, parce que quelquefois, il faut que nos mobiles soient purs. Mais si je le cherche tout simplement pour faire sa volonté, pour recevoir de lui quelque part un enseignement, une parole, quelque chose, je sais qu'il va me récompenser quand je vais lui demander son aide, son secours. Je suis dans son plan. Alors les témoignages qui suivent trouvent leur application, je dirais, essentiellement dans le domaine de la guérison. Mais je précise au passage, et je prends la précaution de le faire, que ce n'est pas le seul champ d'application à la foi. Dans le domaine matériel, Dieu peut répondre. Il nous l'a prouvé quelquefois. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre ces choses-là. Dans le domaine affectif vis-à-vis de quelqu'un, Dieu a pu agir et se manifester parce que vraiment, on voulait qu'il se passe quelque chose dans le cœur de cette personne. Et il s'est passé quelque chose. Amen. Alors, regardons un petit peu l'exemple du centenier. Luc chapitre 7, verset 9. Je vais le pousser un peu. Voilà. Luc chapitre 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira ce centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, il est ici question d'une grande foi. On sait qu'il est question, une certaine foi, d'une petite foi, comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde. Mais là, Jésus le prend en exemple en disant, « Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. » Alors, ce sont, bien sûr, les termes employés par le Seigneur lui-même. Malheureusement, je dirais qu'il existe également le contraire. Eh oui. Matthieu 14, verset 31, vous allez voir quel personnage il s'agit. Aussitôt, Jésus étendit la main, il le saisit et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Qui c'est ? Il s'adresse à Pierre. Amen. À Pierre qui, quand même, quelque temps plus tard, va prêcher, 3000 personnes vont se convertir. On aimerait avoir des prédications semblables. Ou des moments semblables où la prédication, eh bien, le touche 3000 personnes, ils se convertissent. Moi, j'ai vu des milliers de personnes se convertir, oui, oui. J'ai vu des milliers de personnes s'avancer à l'appel. Mais c'est particulier. Là, ce même homme, on sait qu'il va vivre quelque chose de formidable après. Mais là, il est sur l'eau parce que Jésus lui a dit, il l'a pris au mot finalement. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Ok, Pierre, viens. C'est bien. C'est bien, c'est un homme, un homme impétueux, un homme de foi aussi, parce qu'il faut quand même sortir de la barque, poser ses pieds sur l'eau, d'accord ? Et dire, je fais le premier pas, non, j'en fais deux, non, il n'a pas réfléchi, hein, je ne pense pas. Ok, c'est le Seigneur qui l'a dit, j'arrive. Voyez un petit peu comme quoi la foi elle peut vivre des expériences formidables. Le problème, c'est qu'il a entendu le vent siffler à ses oreilles. Il a vu les vagues. Hein, il s'est aperçu qu'en marchant, ça remue un peu. Et puis, il a pris conscience de tout cela. Et quelque part, patatrac, Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur, aussitôt a saisi sa main. Hein. Amen. Un peu plus tard, les disciples diront ceci. Hein, Seigneur, augmente-nous la foi. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'expérience de Pierre, mais en tout cas, ils sentaient qu'ils avaient besoin que leur foi augmente. Donc, dans la réponse que Jésus va donner au centenier, il a mis davantage l'accent sur la nature et sur la qualité de sa foi. En effet, avant d'en avoir beaucoup, beaucoup de foi, je crois qu'il était important de vérifier la nature de notre foi. C'est important, hein ? Parce qu'il ne faut pas confondre ce qui pourrait lui ressembler, sans en être, par exemple, l'autosuggestion. Hein ? L'autosuggestion, la pensée positive, l'optimisme. C'est bien d'être optimiste, hein ? C'est mieux que pessimiste. Hein ? Mais est-ce que c'est vraiment de la foi ? On va voir que la foi elle est basée sur quelque chose de solide. Dans Luc chapitre 17, verset 6, le Seigneur va dire, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Un peu plus loin, Marc chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et il y a une version littérale qui dit, « Ayez la foi de Dieu. » C'est encore plus fort. « Ayez la foi de Dieu. Ben, » Seigneur, ma foi, moi... Elle n'est pas si grande que ça. Hein. Si je la considère comme un petit grain de sénévé, il est dit que nous devons avoir la foi de Dieu. Donc une foi finalement basée sur, allez, plus que l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu, sur le témoignage que Dieu nous laisse, sur son œuvre accomplie. Amen. Une foi également doublée d'humilité. Les gens vantaient ses mérites, mais lui, il ne se sentait pas digne. Hein. Quand je regarde un petit peu, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alors qu'on disait « Il est digne, c'est un homme à qui tu dois aller faire quelque chose pour lui, parce que vraiment, il fait beaucoup pour la nation, il fait beaucoup pour le pays, il fait beaucoup pour nous. » Et lui, il se reconnaît tel qu'il est. Hein, comme il le dit, je ne suis pas digne. Qui suis-je pour que finalement tu t'intéresses à moi et que tu entres sous mon toit dans ma maison, hein. C'est une foi également qui se base sur ce que dit le Seigneur. Luc chapitre 7, verset 8. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Le centurion, finalement, extrait de son propre vocabulaire, je dirais trois mots qu'il sélectionne allez, méticuleusement. Hein. Va. Le Seigneur nous dit d'y aller aussi. Hein. Viens. Quelquefois, il nous dit viens, allez. Et puis, surtout, tu fais. Vous voyez, la foi ne reste pas lettre morte. Amen. Elle est agissante. Il se passe des choses. Eh oui. En tout cas, il en connaît le pouvoir, l'autorité. Il se réfère, je dirais, à sa propre expérience professionnelle, parce que c'était un homme de métier, un homme de guerre, un homme de pouvoir, d'autorité. Son serviteur également a appris à se soumettre à ses termes, je dirais, et lui, l'officier, a appris justement à s'en servir dans l'intérêt de l'empire qu'il sert. Il est au service d'un empire, d'un empereur. Nous sommes au service du grand maître. Apprenons à nous en servir. Amen. Apprenons à recevoir de lui l'autorité. Il est prêt à ce que le Seigneur dise son mot. Dis un mot. Vous vous rendez compte? Il n'avait pas la foi, le gars? Dis un mot. Et là, pas de doute, mon serviteur sera guéri. C'est formidable. Elle est bien, sa foi. Elle est belle, hein? Croyez pas? Eh oui. Il y a également la femme cananéenne. Connaissez. Matthieu 15, verset 28, je prends simplement ce verset. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. D'accord ? Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, une foi qui est grande. Et ça aussi, c'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte. Hein. C'est le Seigneur qui lui dit, femme, ta foi est grande. Donc, une foi qui ne peut pas être basée sur, on va le voir, sur la culture. Matthieu 15 et 22 nous dit que voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le centenier était un Romain, elle c'était une cananéenne. Tiens, tiens. Et ils ne sont pas trop branchés avec Israël, tout cela. Non ? Avec la loi de Dieu, la loi mosaïque, bien sûr. Hein. Alors par conséquent, je dirais qu'il n'y a là que plus de mérite. Parce que ça ne peut pas se référer à une éducation religieuse, ce qui, quelquefois, n'est pas mieux. Hein, parce que des fois, on vit sur l'acquis des parents ou des grands-parents. Eh oui. Non. C'est une foi personnelle. Une foi reçue d'en haut. Amen. C'est-à-dire, c'est du live, c'est du direct. C'est ça. Alors, ça n'empêche pas d'avoir discerné que Jésus est quelqu'un de particulier. Elle l'appelle fils de David. Amen. Donc, c'est le Messie qu'on attend. On a dit qu'il viendrait. Amen. C'est lui. Hein. Les Juifs l'attendent. Il va venir. Une foi également qui insiste et qui persévère. Les disciples la repoussent. Le Seigneur, lui, il ne lui répond pas un mot. Mais quand il consent à lui répondre, il lui fait savoir qu'il est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Formidable, hein ? Vous appelez le Seigneur au secours, il vous dit, écoute, moi je ne suis pas là pour m'occuper de toi. Hein. Ouh. Alors c'est alors que, voyez un petit peu comme quoi, quand la foi est active, quand elle est vivante, quand elle est vraie, elle ne se laisse pas abattre. Alors, Matthieu 15 et 26, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la tare, de la table de leur maître. Alors, en réponse, je crois que la réponse, elle est bien, elle est formidable. Hein. Elle dit, oui, Seigneur. Premier mot, oui, Seigneur. Est-ce qu'elle s'est abaissée là au rang des petits chiens pour le fait qu'elle a dit oui, Seigneur, ou alors qu'elle a considéré, qu'elle est considérée par le Seigneur comme ayant une grande foi, ou, je dirais, les deux associés. D'abord, il faut beaucoup d'humilité. Quand on est dans le domaine de la foi, on n'est pas dans le domaine conquis. Nous recevons tout par grâce. Amen. Je ne mérite rien. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas parce que j'ai un savoir. Non, pas du tout. C'est par grâce. Amen. Et comme je le dis, elle se met au rang qui est le sien. Lui, c'est le maître, c'est le Seigneur. Moi, finalement, je suis l'élève, j'ai tout à apprendre, à recevoir de lui. Il y a également la femme atteinte de perte de sang. Une foi qui va être aux conséquences très larges. Matthieu, chapitre 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Marc, qui est un témoin oculaire, dit, il rapporte ça de ce qu'il voit, il dit, « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Alors nous avons là deux verbes différents dans notre traduction. Dans l'original, il s'agit du même verbe, c'est le verbe « sozo », qui veut dire tout simplement à la fois « sauver » et « guérir ». Amen. Sauver et guérir. Donc la foi trouve dans ces deux significations, je dirais, ces applications essentielles. Amen. Le Seigneur nous sauve. Il nous sauve si nous avons foi en lui. Amen. Quelquefois, il faut attendre que nous soyons au fond du trou pour crier à lui avec vérité, sincérité. Et il nous entend, il nous sauve. Et dans le domaine de la guérison, c'est la même chose. Amen. Également, une foi audacieuse. Elle interrompt Jésus, qui est en route justement vers la maison de Jaïrus, où il fallait réveiller cette fille, cet enfant. Elle ose s'approcher alors que son état la rend impure selon la loi mosaïque. Perte de sang. Elle touche également le vêtement du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait qu'elle se faufile là. Il faut de l'audace parce que c'était des hommes qui étaient autour de Jésus. Et elle s'est fait son chemin. Elle est arrivée. Hop ! Elle saisit le bord du vêtement de Jésus. C'est une foi également remplie de certitude. Matthieu 9, verset 21. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Finalement, son assurance est à l'exemple des certitudes que la foi autorise quand les conditions sont remplies pour posséder la foi. Amen. Quand je commence à douter, est-ce que tout est réuni pour que j'obtienne? Et c'est là que je veux dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Amen. Non, Seigneur, je ne veux pas détourner le regard de ce que tu m'as dit. Je suis ton enfant. Le diable peut rugir autour de moi. Je sais que tu veilles sur moi. Je t'appartiens. Je ne dois pas douter de ta présence. Tu es là. Et quelque part, après, il y a une paix qui descend. Amen. Moi, je me suis retrouvé en face de personnes possédées. J'étais tout seul, il n'y avait personne avec moi. Que les parents de la jeune fille, quand ça s'est passé dans une maison, et les parents n'étaient pas des convertis. Ils avaient eu mes coordonnées par le trésorier de l'église, parce que le curé refusait de venir et d'affronter la fille. Alors ils m'ont dit, c'est notre fille, mais des fois c'est plus notre fille. En fait, elle était possédée. Eh bien, quand vous êtes comme ça, au milieu d'une maison ou le père qui vous a dit « je serai avec vous », mais c'est le premier à prendre la porte, parce que c'est ce qu'il a fait, vous avez une fille qui est à ça du sol, ben, vous avez intérêt de croire au Seigneur, d'avoir foi en lui et de dire finalement « si je suis là, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui m'as amené là. » Amen. Bon, on a une autorité formidable. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » 1 Jean 3, 21. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Amen. Il ne faut pas s'auto-flageller, hein, quelquefois, on le fait. Hein. Mais non, si j'ai rien fait, j'ai rien fait. Si je suis clean, je suis clean. Non ? Mais je sais que Dieu est pour moi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je ne vais pas demander au Seigneur de me donner 3 milliards. Il ne me les donnera pas. Hein. Et par contre, si j'ai besoin de quelque chose de particulier pour le mettre à son service, quelque chose de particulier, ben il va le faire. Amen. 1 Jean 2,12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Vous savez où ils sont ? Au fond de la mer. Mais il ne les a pas mis là, au bord de la plage. Hein. C'est dans la fosse la plus profonde. Là, je vous raconte ça. Et un serviteur de Dieu, un jour, fait venir un missionnaire qui passait. Et puis, il avait dans l'église un frère qui a... excusez-moi, mais à tout bout de champ, c'était « Amen, Amen !» Alors il disait « Oh là là, là là, je sais que le frère qui vient, il va nous raconter des choses magnifiques. Et le frère, il ne va pas pouvoir se tenir. » Alors il savait également qu'il y en avait de la région qui allait venir. Donc il disait « Mais... » Alors, il avait un coup de téléphone qu'il devait recevoir et il ne savait pas quand. Alors il lui a dit « Frère, j'ai besoin de vous. Il faut que vous me rendiez service. » Oui. Alors, il dit, vous pouvez aller dans mon bureau, il y a le téléphone qui va sonner, et j'attends un coup de téléphone. Ce n'était pas un mensonge, c'était vrai. Il attendait un coup de téléphone. Et donc, le frère a dit, oui, oui, volontiers, volontiers. Et puis, le missionnaire prêche, c'est un homme avec un élan formidable, extraordinaire. Il racontait des témoignages, l'église était subjuguée par ce qu'elle entendait. Et puis, le pasteur, il entendait autre chose, lui. C'est que derrière, dans son dos, il entendait, Alléluia ! Dans le bureau. Il disait, mais s'il entend. Et puis l'église entendait, lui il entendait. Et puis à la fin, il s'est précipité dans le bureau, lui dire mais qu'est-ce qui vous arrive, frère ? Écoutez ! Alors il était devant le mur. Devant le mur, il y avait une map au monde. Mais ce qu'il y avait, c'était les déclinaisons, vous savez, des mers, la profondeur des mers. Il n'y avait pas que la terre. Il y avait les profondeurs des mers. Et il disait, mon péché, il est là ! Alléluia ! Je faisais, ah, formidable. Vous voyez un petit peu, mais la réalité, elle est là. C'est que notre péché, normalement, il ne doit pas remonter. Il ne faut pas que je l'invite à remonter. Amen. Il y a la femme pécheresse hein, qui est pardonnée. Et là, c'est une foi vivante, vantée par Jésus. Luc, chapitre 7, verset 50. Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, le Seigneur lui-même met en avant cette foi. C'est d'abord une foi qui tranche avec celle des autres. Luc chapitre 7, verset 40. Jésus prend la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. » Alors Jésus va parler d'un débiteur, de deux créanciers, dont un avait une dette supérieure à l'autre. Vous connaissez l'histoire. Et il leur dit que leur dette à tous les deux est remise. Amen. Formidable, hein ? Et Jésus lui dit, « Lequel l'aimera le plus ?» Alors, Simon, il va répondre tout simplement, c'est celui qui avait la plus grande dette. Et il dit, t'as raison. Il dit, vois-tu, en se tournant vers la femme, cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. C'était une femme pécheresse. Peut-être que Simon, il ne savait pas qu'il était pécheur. Il avait besoin de le découvrir, en tout cas. Amen. Mais il est dit qu'il est beaucoup pardonné à celui qui a beaucoup péché. Alors Simon, Elle avait quelque part la foi, parce qu'il invite Jésus chez lui. Mais je dirais que c'était une foi de politesse et de convenance. Cette sorte de foi existe, oui. Tandis que la femme, elle avait, je dirais, la foi du cœur. Cette foi qui pousse à une reconnaissance infinie, eus égard à la grâce reçue par le moyen de la foi. Amen. Tu m'as beaucoup pardonné, Seigneur. Je sais que moi, s'il ne m'avait pas arrêté, j'aurais certainement fini en prison. Parce que j'avais des pensées, non pas suicidaires, mais des pensées de mort, de haine, vis-à-vis de, eh bien, de mon patron, de mes patrons. Eh oui. J'ai même vu le docteur de chez nous, le docteur pompier, il dit, Patrice, est-ce qu'il existe le meurtre parfait? Oui. Il m'a dit, il faut tel mélange. Ça ne se détecte pas. Alors maintenant, je ne sais pas avec la science qu'il y a au niveau des gendarmes, au niveau de la recherche, des scientifiques, mais à l'époque, il me dit ça ne se retrouve pas. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais entre-temps, j'ai voulu pousser mon chef dans le feu. Ah oui. Je l'ai pris par les épaules, je l'ai jeté dans la rue. Un autre est sorti en courant, j'étais en train d'y taper dessus. Et à travers sur le boulevard en courant, heureusement qu'il n'y a pas eu de voiture. Hein. Vous voyez un petit peu dans quel état j'étais. Hein ? Eh oui. Mais il a fallu la grâce de Dieu. Il a fallu que le Seigneur m'arrête. Et moi, je ne peux pas dire, c'est pas vrai. Je me suis fait une idée. Parce que ça dure depuis le temps. Hein. Et puis, bien mieux que ça, hein. Je l'ai vu à l'œuvre. Amen. Alors, cette foi le plaît au Seigneur. C'est une foi qui a sa rémunération. Luc, je vais finir par cela. Luc, chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, eh bien, ne manifeste pas ou que peu d'amour. Luc, chapitre 7, verset 50. Et j'ai pris l'habit du semeur. Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » Ne vous torturez pas. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur au Seigneur? Est-ce que vous croyez de tout votre cœur que le Seigneur est capable d'apporter la guérison dans votre corps? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de sauver même le pécheur le plus bas tombé? Oui, je le crois. Amen. Et cette dernière parole, elle est là, Luc 18, verset 8, parce que c'est la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous trouvera-t-il veillants et priants? Nous trouvera-t-il avec cette foi vivante? Parce que c'est la question fondamentale. Et là, on ne peut pas avoir une réponse vague, qu'une réponse personnelle. Oui, Seigneur, je crois en toi. J'ai foi en toi. Je ne dois pas douter, je n'ai pas le droit de douter de ce que tu es capable de faire. À Dieu, rien n'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Et nous devons croire que le Seigneur est capable, là où nous sommes incapables, où la société est incapable, là où le monde ne peut plus rien, lui, il peut tout. Amen. Ça nous fait du bien. On va prier. Amen. On a le temps, hein? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Dites-moi. Allez, on va fermer nos yeux, on va prier. Je vous donne quelques sujets de prière. Est-ce qu'il y a des sujets de prière déjà? Dites-moi, au milieu de vous, de nous. Bon. On continue à prier pour Claude.